Chers auditeurs, je profite d'un entretien paru cette semaine sur le site du CRIF avec David Ouellette, responsable du groupe de travail sur l'antisémitisme au sein du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, qui est l'agence de représentation des fédérations juives du Canada, pour évoquer justement les juifs du Canada en général et du Québec en particulier. Monsieur Ouellette nous rappelle qu'un rapport publié par l'Institut national de la statistique du Canada concernant l'année 2017 établit que les juifs forment la collectivité la plus ciblée du pays. Alors qu'ils ne représentent que 1% de la population canadienne, les juifs canadiens ont subi 18% des crimes haineux rapportés en 2017. Mais nous allons poser tout cela en perspective et retourner un peu en arrière pour présenter la situation des juifs au Canada. Tout d'abord, le Canada est un État fédéral dans lequel chaque province dispose d'un parlement autonome. Le pays se définit comme multiculturel, c'est-à-dire qu'il met en place une politique de la diversité permettant à chaque communauté ethno-religieuse, comme on l'appelle, de fonctionner en gardant ses valeurs et ses institutions propres au sein du creuset national. Après les États-Unis, Israël, l'ex-URSS et la France, le Canada compte la cinquième plus grande communauté juive du monde. Ses membres vivent surtout dans les provinces de l'Ontario et du Québec, suivis du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Au début de la colonisation du Canada, les Juifs sont légalement interdits de résidence en Nouvelle-France, qui était le nom du Québec, où l'immigration était limitée aux catholiques. Les Juifs s'installent donc dans les colonies anglaises. Et après l'intégration de la Nouvelle-France à l'Empire britannique, ils commencent aussi à s'installer dans le Bas-Canada. Vers la fin du 19e siècle, le pays en dénombre 1115. Les villes de Montréal et de Toronto comptent environ les trois quarts de la population juive canadienne. Mais on en trouve dans presque toutes les villes importantes, jusque dans de petites localités. Dans le Nouveau Monde, les Juifs, principalement originaires de pays qui ne leur accordaient pas la plupart des droits politiques et civiques, ne subissent plus les mêmes discriminations qu'en Europe. Ils vivent alors principalement du commerce de détail ou de gros. Plus tard, il constitue aussi une grande partie de la main-d'œuvre de la nouvelle industrie du vêtement prêt-à-porter. La Fédération des sociétés sionistes canadiennes, fondée en 1899, 2 ans après le premier congrès sioniste mondial, devient la première association juive du Canada d'envergure nationale. Le mouvement sioniste s'attire un soutien important, y compris celui de nombreuses personnalités fortunées. La crise de 1930 impose après de sévères restrictions à l'immigration. Entre 1933 et 1945, alors que les Juifs d'Europe subissent les pires persécutions nazies, les portes du Canada le restent closes, malgré les protestations de masse et les pressions continuelles exercées par les dirigeants communautaires. Ce n'est qu'après la Shoah que le Canada change d'attitude et autorise les rescapés à y trouver asile. Aujourd'hui, la communauté est estimée à environ 250 000 Juifs, répartis dans tout le Canada. Ils sont représentés à travers 2 grandes organisations principales, le Congrès juif canadien, organisme de défense des intérêts de la communauté juive du Canada, qui agit au nom des fédérations juives du pays depuis 1919, et le B'nai B'rith national. Au Québec, plus précisément, la communauté juive constitue un élément essentiel de la société depuis plus de 2 siècles. La congrégation Shiarit d'Israël, première communauté non chrétienne et non autochtone du futur État fédéral du Canada, inaugure dès 1768 l'unique synagogue de Montréal. À la fin du XVIIIe siècle, les chrétiens du Québec s'interrogent sur l'octroi ou non de droits politiques aux autres communautés, dont les Juifs. En 1832, l'Assemblée législative de la province francophone vote en faveur de l'émancipation politique des Juifs, ce qui fait d'elle le premier territoire de l'Empire britannique à adopter une telle loi, plus d'un quart de siècle avant l'Angleterre elle-même. Les Juifs qui viennent s'installer au Québec au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle y trouvent un milieu accueillant dans la plupart des cas et contribuent à la croissance économique et sociale de la région. La communauté demeure cependant assez petite. Au premier recensement de 1871, la population juive du Québec compte moins de 500 âmes. Cette situation va connaître un changement important à la toute fin du XIXe siècle. À cette époque, il est vrai, une vague massive de populations originaires d'Europe de l'Est, fuyant les pogroms, en quête de prospérité et d'égalité des chances, émigrent vers l'Amérique, et donc le Canada et le Québec. Ces nouveaux arrivants décuplent la population juive du Québec, qui connaît une croissance de plus de 800% entre 1901 et 1931, passant d'environ 7 000 à 60 000 personnes. Ces récents venus ne tardent pas à promouvoir le yiddish au rang de troisième langue courante à Montréal, après le français et l'anglais. Matériellement pauvres, les Juifs n'en sont pas moins riches d'un patrimoine culturel important et d'une volonté absolue de s'enraciner dans leur nouvelle société d'accueil. Dans ces années, le gouvernement confie aux congrégations religieuses la gestion d'établissements communautaires tels que des hôpitaux et des orphelinats. Dans ce contexte, les Juifs développent rapidement leur propre réseau d'aide sociale, de cliniques, de sociétés d'entraide, de synagogues, d'écoles, de bibliothèques et de journaux. Ces institutions stimulent le développement d'une créativité culturelle et religieuse et font de Montréal la ville d'accueil d'une communauté qui contribue grandement au rayonnement de la culture juive en Amérique du Nord et dans le monde. L'esprit d'entreprise de la communauté juive contribue aussi à faire de Montréal un centre manufacturier prospère et la plus grande métropole du Canada. Cependant, une fraction de la population québécoise s'inquiète de la croissance de cette communauté. Certains groupes estiment que cette situation nuit à l'identité chrétienne qui, à leurs yeux, doit prévaloir au Canada et au Québec. Parmi eux, des protestants anglophones et des catholiques francophones s'alarment du nombre croissant d'élèves juifs dans le système scolaire chrétien, menaçant ainsi la nature fondamentale de la communauté blanche. En effet, les juifs suivent leur scolarité dans des écoles protestantes et s'assimilent au Canada anglais. Par conséquent, les francophones craignent qu'ils ne contribuent à affaiblir le caractère catholique et français du Québec. C'est ainsi que des comportements antisémites surgissent à des degrés divers. Ces attitudes influent profondément sur le gouvernement canadien, à l'égard de l'immigration juive depuis les années 20 jusqu'aux années 40. Face à cet antisémitisme, les juifs sont mis à l'écart au point de vue social et culturel. Et ce n'est qu'après la Shoah, fin des années 40, que le Québec autorise à nouveau l'immigration juive, qui propulse alors la croissance démographique, économique et culturelle de la communauté dans la province francophone. Durant les années 50, le Québec accueille une nouvelle vague d'immigration juive, provenant cette fois principalement d'Afrique du Nord. Les séfarades diffèrent de la culture majoritairement ashkénaze de la communauté du Québec. De plus, ces nouveaux immigrants parlent le français, et leur arrivée conduit la communauté juive à modifier son discours et ses habitudes. Cette vague d'immigration pousse également à la société québécoise à changer sa perception des juifs comme étant exclusivement anglophone. À la fin du XXe siècle, des immigrants en provenance de l'ex-Union soviétique, d'Israël, d'Argentine et d'autres pays viennent également, dans une moindre mesure, accroître la diversité de la communauté juive. Cependant, des mutations sont apparues dans cette communauté du Québec. Sa population est passée de 120 000 membres en 1971 à près de 93 000 personnes actuellement, principalement concentrées dans la région de Montréal. Cette baisse démographique a entraîné une réorientation de la communauté. Elle est actuellement davantage francophone. Sa composante séfarade s'intègre avec succès au leadership d'une communauté historiquement majoritairement ashkénaze. Les jeunes juifs du Québec, ashkénazes ou séfarades, sont aujourd'hui d'ailleurs plus bilingues que par le passé. En ce qui concerne maintenant l'antisémitisme actuel au Canada, comme nous l'avons abordé plus haut, il reste essentiellement lié à l'actualité du Proche-Orient et fluctue en fonction de ses développements. Ce qui rend le problème permanent d'ailleurs. Le phénomène est particulièrement ressenti au sein des universités, bien plus que dans la rue canadienne. Au sein du monde académique, le combat entre Israël et ses supporters est organisé, structuré par des organisations étudiantines. Il se définit comme une lutte s'opposant aux « juifs ennemis de l'humanité », entre guillemets. La bataille idéologique s'opère sous forme de conférences tournant autour du thème de la Palestine et tout ce qui s'y raccroche. La presse n'est pas épargnée non plus par le phénomène. Elle se retrouve principalement muselée par sa crainte de l'islamophobie ambiante. La télévision publique est immergée dans la problématique de la désinformation pour qui le judaïsme est pris pour une religion. Le juif ne fait pas partie d'un peuple, mais devient un personnage exotique assimilé à sioniste. Pour les médias, les juifs fréquentables restent ceux désormais qualifiés d'alter-juifs, c'est-à-dire les juifs revendiquant leur appartenance historique, mais se dissociant du peuple juif pour mieux condamner l'existence d'Israël. Ce sont justement eux qui monopolisent la parole radiophonique ou télévisuelle actuellement au Canada. Puisque les organes publics d'information sont indépendants de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle du pouvoir, ils ne sont pas tenus au devoir de rééquilibrage. Dans les faits, l'antisémitisme classique se traduit par des attaques physiques contre des hassidim, facilement identifiables, ou par des croix gammées, taguées sur des synagogues. La police canadienne n'a pas suffisamment conscience du problème. De plus, elle manque de moyens pour lutter efficacement contre ce phénomène. Les auteurs de graffitis antisémites ne sont d'ailleurs jamais vraiment retrouvés. Soulignons toutefois que lorsque le Premier ministre Justin Trudeau a présenté le mois dernier les excuses officielles du Canada pour sa politique des portes fermées envers les réfugiés juifs européens fuyant la persécution nazie, comme nous l'avons vu un peu avant, eh bien Justin Trudeau a signalé que son gouvernement était ouvert à une bonification du programme d'infrastructures sécuritaires pour les communautés à risque, dont la communauté juive. Espérons que cela accroisse la sécurité de ces juifs au Canada, un des pays où, globalement, la situation des juifs est incomparablement meilleure que dans n'importe quelle autre région de diaspora et sans aucune mesure avec les pays d'Europe. Voilà, à la semaine prochaine.